Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer le déficit en lipase acide lysosomale, ou LALD, et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Noël Peretti. Professeur Peretti, bonjour.
Bonjour à vous.
Professeur Peretti, vous êtes pédiatre, chef du service de gastro-entérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. Et vous travaillez également au laboratoire Carmen, le laboratoire INSERM dédié à la recherche dans le domaine des maladies cardiovasculaires, du métabolisme, de la diabétologie et de la nutrition. Alors nous abordons aujourd'hui les formes de déficit en LAL à révélation tardive. Quelles sont les principales différences entre ces formes à révélation tardive par rapport aux formes néonatales ?
Comme le nom l'indique, hein, l'âge de survenue et puis aussi évidemment ce qui est assez corrélé, leur intensité. Puisque du coup, ces formes, alors tardives, on va dire relativement tardives, puisque ça concerne quand même généralement des enfants assez jeunes quand même, hein, entre avec un diagnostic qui est fait entre autour de 5 ans, entre 5 et 10 ans, en tout cas généralement avant l'âge de 20 ans, hein, donc durant l'enfance. Et donc ce sont des pathologies qui sont quand même très rares, mais qui voilà, qui se passent souvent par les mains des pédiatres. Les patients passent souvent en consultation pédiatrique initialement. Et puis donc l'intensité, puisque la forme néonatale est hors traitement gravissime avec une létalité très rapide, alors que ce n'est pas le cas du tout des formes de ces formes dites plus tardives.
Et justement, quand penser à un déficit en LAL à révélation tardive ?
Alors, il peut y avoir des symptômes cardiovasculaires, digestifs, et digestifs surtout hépatologiques, mais éventuellement digestifs, et puis des signes biologiques. En pédiatrie, souvent, c'est une découverte, le plus souvent une découverte fortuite sur la biologie. Et donc la biologie, là aussi, il y a le cardiovasculaire et les pathologies. Donc on peut résumer, je dirais, un bilan systématique demandé chez un enfant pour une raison X, sur lequel on tombe, par exemple, sur un bilan lipidique anormal. Donc ça, c'est là une cause assez classique. Ce bilan lipidique va avoir comme particularité d'avoir un taux de mauvais cholestérol de LDL très élevé, supérieur généralement à 2 grammes, entre 2 et 3 grammes, donc franchement évocateur d'une, par exemple d'une hypercholestérolémie familiale. Donc soit un bilan lipidique anormal, découvert fortuitement, ou parce que dans la famille il y a une raison d'explorer cette anomalie lipidique, et donc on trouve un LDL, un mauvais cholestérol, franchement augmenté entre 2 et 3 grammes, et de manière un petit peu, ça c'est peut-être le point d'alerte, puisqu'on va d'abord évoquer une hypercholestérolémie familiale sur des taux pareils, mais le HDL, dans la moitié des cas à peu près, est abaissé. Et donc ça, et des fois des triglycérides un petit peu augmentés entre 1 et 2 grammes, et donc ça, ce qui est plutôt évocateur, je dirais, sur cette dernière partie HDL bas et trigly un peu augmenté d'un syndrome métabolique, alors que le patient, généralement, n'est pas obèse, n'a pas de problème d'insulino-résistance ou de choses comme ça. Donc l'association LDL haut et HDL bas est quand même là très évocatrice. L'autre bilan biologique qui peut amener à faire une exploration, doit faire penser à ce déficit en LALD, c'est la cytolyse hépatique. Donc ce sont des enfants qui sont explorés pour une cytolyse hépatique fluctuante dans le temps, généralement plutôt d'intensité modérée, entre 1,5 et 3 fois la normale pour les transaminases, donc surtout les azates, mais voilà, des transaminases augmentées, et c'est fluctuant dans le temps. Ça peut être favorisé par un épisode infectieux, par exemple, viral. Et donc ça, cette association dyslipidémie et cytolyse est très, très évocatrice. C'est peut-être, je dirais, le tableau biologique, clinico-biologique le plus évocateur du déficit LALD à révélation tardive. Cliniquement, en théorie, on peut avoir... Donc il y a une atteinte hépatique dans quasiment 100% des cas, donc c'est pour ça que j'évoque la porte d'entrée plus gastro-hépato que cardiovasculaire métabolique, et donc on a une hépatomégalie, un gros foie, éventuellement associé à une grosse rate, mais c'est cliniquement pas toujours évident de voir ça. Dernière porte d'entrée possible, plus tardive, c'est l'accident cardiovasculaire précoce, mais qui finalement arrive plus tardivement habituellement. Voilà, donc ça c'est un petit peu, je dirais, quand il faut y penser, la biologie, dyslipidémie et cytolyse associée, une dyslipidémie particulière, LDL très haut, HDL abaissé, Et puis cliniquement, donc des plaintes digestives avec souvent une hépatomégalie. Alors, les plaintes digestives, ça peut être des épisodes diarrhée, vomissements récurrents, intermittents, parfois avec de la fièvre. Alors on ne sait pas très bien s'ils sont déclenchés par l'épisode, un épisode viral intercurrent qui favorise l'expression biologique de la maladie, ou s'ils sont éventuellement associés parce qu'on a une atteinte digestive. La clinique, elle est liée finalement à la surcharge des cellules en cholestérol ester, en fait. Hein.
Et quelle est l'évolution possible de ces déficits en LAL à révélation tardive en l'absence de prise en charge ?
On l'a un petit peu évoqué, donc l'atteinte cardiovasculaire, c'est le risque cardiovasculaire précoce. Donc c'est infarctus, angore, voilà, chez l'adulte jeune généralement. Et au niveau hépatique, c'est l'évolution vers la fibrose qui est très souvent présente au moment du diagnostic déjà, et l'évolution vers cirrhose, insuffisance hépatocellulaire et greffe. En sachant que c'est une évolution l'histoire naturelle de la maladie montre que c'est quand même peut-être ce point-là qui est le plus prégnant, je dirais, dans les premières années du suivi.
Et donc, comment les prendre en charge, ces déficits en LAL à révélation tardive ?
Alors, on va on a une atteinte hépatique et une atteinte vasculaire, donc la prise en charge va être axée là-dessus. Donc, il y a déjà, je pense que la première chose à dire, c'est qu'il y a un traitement enzymatique substitutif qui existe, alors qui n'est pas pour l'instant en France disponible pour ces formes dites tardives, qu'il est par contre pour les formes néonatales. Et sinon, donc actuellement, c'est réduire les risques cardiovasculaires et surveiller le foie, l'évolution de la fonction hépatique. Et donc, pour le premier point, ça va être, on va mettre en place des règles hygiéno-diététiques, comme on le fait dans les hypercholestérolémies, en termes d'alimentation et d'activité physique. Et puis surtout, en fait, le traitement principal, c'est l'utilisation des hypocholestérolémants, avec en tête les statines, pour réduire le LDL cholestérol, tout en surveillant la fonction hépatique, hein, puisqu'on a à la fois un terrain plus fragile lié à la maladie et puis un médicament qui peut interférer. Sur l'aspect hépatique, c'est la surveillance clinico-biologique d'une fibrose, d'une atteinte hépatique chronique, avec détecter le moment où la fonction hépatique risque de nécessiter une transplantation. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que les transplantations hépatiques, alors dans la littérature, il n'y en a pas beaucoup de publiés, c'est quand même une maladie très rare, encore une fois, mais il y a des séries d'une vingtaine de greffes qui montrent que la maladie peut récidiver quand même et évoluer de manière... une suite de transplantations qui est quand même pas toujours simple. Voilà. Donc je pense qu'il faut garder ça aussi en tête. Ça ne semble pas être non plus la panacée. C'est un traitement lourd en soi déjà, mais même une fois réalisé, les risques de complications post-greffe peuvent être compliqués. Pour le traitement, je pense qu'il faut mentionner aussi que pour l'aspect hépatique, on peut essayer de limiter l'atteinte hépatique et notamment l'inflammation. Et sont ajoutés, mais sans aucune étude spécifique au déficit en ALD, la vitamine E, c'est une chose qui peut se faire aussi, mais là aussi sans démonstration de son efficacité, en tout cas plus par analogie avec d'autres atteintes en pédiatrie.
Et pour conclure, professeur Peretti, quel suivi peut-on proposer à ces patients ?
Alors, un suivi d'abord dans un centre spécialisé qui connaît, parce que c'est, encore une fois, c'est quand même très rare, qui associe une évaluation des pathologies pédiatriques et cardiovasculaires aussi, donc une approche souvent multidisciplinaire. Et donc, dans le suivi, c'est... Alors, il n'y a pas de consensus universel, international fort là-dessus, mais globalement, la pratique de la plupart des centres, c'est un suivi tous les 6 mois avec suivi hépatique, donc un bilan hépatique qui évalue la cytolyse et la fonction hépatique, et une imagerie associée, type échographie, fibroscan, donc les scores aussi hépatiques, pour essayer de suivre au mieux, en sachant qu'on a là aussi pas beaucoup de référentiels, bien entendu, puisque cette maladie est très peu fréquente. Et puis, au plan cardiovasculaire, c'est le suivi du traitement par statine, d'une part, et... et de, par exemple, des marqueurs comme l'épaisseur intima media, qui sont des marqueurs indirects du risque cardiovasculaire.
Eh bien, merci mille fois, professeur Peretti, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare, qu'est le déficit en lipase acide lysosomale, ou LALD. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com, où de nombreuses informations sont à votre disposition. Remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.